Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est aujourd'hui le 9e dimanche après la Pentecôte. C'est aussi la fête de Saint Laurent, grand diacre et martyr de Rome. Et cette fête est empêchée par le dimanche. Pensons bien à honorer Saint Laurent dans sa bravoure, dans sa fidélité à Dieu jusqu'au martyr, avec beaucoup d'humour également, face au bourreau. Comme quoi le martyr, s'il nous fait peur parfois, eh bien, il nous est rendu presque aimable par les martyrs eux-mêmes, qui savent relativiser leur souffrance en voyant bien le bon Dieu au-delà de leur souffrance physique pour un bonheur éternel. Donc, invoquons bien Saint Laurent, grand martyr des premiers siècles de l'Église, et puis aussi Saint Sixte, qui est fêté juste avant la Saint Laurent, ces jours-ci. Je voudrais poursuivre, eh bien, chers frères, ce que j'ai commencé, voici déjà plusieurs dimanches, sur la méditation du roi prophète David. Pour ceux qui n'ont pas entendu les sermons des dimanches précédents, ce n'est pas bien grave, parce que ce que je vais dire aujourd'hui est un petit peu, non pas à côté de cette histoire, mais c'est le prophète Nathan qui, lorsque David a péché gravement à plusieurs reprises, l'adultère, le meurtre, les mensonges divers, parce qu'il a caché aux yeux du peuple ses graves péchés, le prophète Nathan vient lui conter une histoire sous forme de parabole pour mettre l'âme de David en face de ses réalités si importantes, son péché. Mais c'était très délicat d'aller voir le roi pour lui dire « Tu as péché ». En effet, Nathan est prophète, mais il n'est pas roi. Donc s'adresser à un roi pour lui montrer ce qu'il a fait et la gravité de son péché, c'est une chose très délicate. Saint Thomas d'Aquin, à ce sujet-là, et plus de façon plus générale, plus vaste, parle de la correction fraternelle. Et c'est ce que Nathan va faire dans des termes très charitables, mais vrais. Mais vrais. Car il veut accuser le roi plutôt que le roi se rende compte qu'il a péché à travers cette histoire que va lui conter Nathan. Saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la correction fraternelle, dit qu'elle est... Enfin, c'est la charité. C'est la charité qui double une charité matérielle, une charité spirituelle. Et dans la somme, saint Thomas d'Aquin voit d'abord l'aumône comme charité sensible, extérieure. Et ensuite, juste après, c'est la question suivante, c'est la correction fraternelle qui est une aumône spirituelle. Donc il y a deux aumônes, la matérielle et la spirituelle. Donc aujourd'hui, nous allons voir le côté spirituel de cette aumône, de cette charité pour l'âme, pas seulement pour le corps, comme l'aumône matérielle, bien sûr, c'est important de faire aussi l'aumône matériellement, mais c'est l'aumône spirituelle qui n'est pas moindre que la première. Mais c'est un autre développement de cette même charité. Je vais vous lire tout à l'heure, bien sûr, ce que Nathan a dit au prophète David, au roi prophète David, et aussi le commentaire qu'en fait le pape Saint Grégoire le Grand. Et tout d'abord, c'est le principe de la correction fraternelle. Ce que fait Nathan est une conséquence, une application de cette correction fraternelle. Donc voyons d'abord le principe de la correction fraternelle. Et je lis tout simplement ce que le grand docteur saint Thomas d'Aquin a dit sur ce sujet. La correction est un certain remède qu'on doit employer contre le péché du prochain. Or, on peut considérer dans le péché le préjudice qu'il cause à celui qui le commet, à ceux qui lèsent ou scandalisent, et même au bien public dont le bon ordre peut être troublé. la correction du coupable est donc double. Elle sera soit par rapport à la charité, soit par rapport à la justice. La première remédie au péché, en tant qu'il est un mal pour le pécheur, et c'est précisément la correction fraternelle qui a pour but de le rendre meilleur. Or, enlever un mal à quelqu'un est un acte de même nature que lui procurer du bien. Mais ce dernier est un acte de charité qui nous pousse à vouloir et à faire du bien à ceux que nous aimons. C'est donc en ami, c'en est donc un ami, un, pardon, c'en est donc un aussi de corriger son frère, c'est-à-dire lui enlever son mal, son péché, et qui est d'autant supérieur à la guérison d'une maladie ou la réparation d'un dommage que la vertu elle-même a plus d'affinité avec la charité que la santé ou la richesse. Ainsi donc, la correction fraternelle est un acte plus charitable que ce soit des malades ou le soulagement des pauvres. Et il y a un degré dans la charité. L'âme est plus importante que le corps. Soigner un corps est très important, mais l'âme encore davantage, et c'est beaucoup plus délicat au sens difficile de soigner une âme qu'un corps, parce que c'est spirituel. Et la correction fraternelle s'adresse à l'âme, l'aumône spirituelle. Parce que nous aimons le prochain, alors nous voulons lui procurer un grand bien, l'aumône. Matériel, ça c'est là, c'est, je dirais, plus facile, mais l'aumône spirituelle est plus délicate, plus difficile, parce que c'est justement c'est de l'âme dont il s'agit, et l'âme, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas monnayable. L'âme a une valeur d'éternité. Et par la suite, ça c'est l'article 1er, donc pour ceux qui auront la somme sous les yeux cet après-midi, c'est la Secunda Secundae, question 33, article 1. Et saint Thomas d'Aquin va développer, mais je voudrais vous lire les notes de la Revue des Jeunes qui sont tellement subtiles et aussi pleines d'enseignements pour nos âmes. Saint Thomas d'Aquin et le commentateur qui voit cette somme aussi nous dit que l'aumône spirituel, donc la correction fraternelle, doit être empreinte de prudence. De prudence. Et que maintenant nous verrons à quel point le prophète Nathan a utilisé cette usée de prudence dans cette correction fraternelle vis-à-vis du roi. Notre Seigneur nous fait le précepte de cette correction fraternelle. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et saint Augustin de commenter, si tu négliges de corriger le pécheur, tu deviens pire que lui. Ainsi, comment comprendre l'obligation de ce précepte ? La correction fraternelle, puisqu'elle est destinée à faire le bien, est prescrite sous forme de précepte affirmatif « Reprends ton frère ». Si telle ou telle circonstance se présente qui empêche l'acte prescrit d'atteindre la fin morale qui se propose, le précepte qui le commande n'oblige plus. Par exemple, le précepte de jeûner quand on est malade, d'aller à la messe le dimanche, en laissant à la maison son père mourant. Tel est le cas du précepte de la correction fraternelle. Celle-ci est obligatoire s'il est manifeste qu'elle doit aboutir à l'amendement du pécheur. Donc on parle de la prudence dans cette correction fraternelle. Donc s'il est manifeste qu'elle doit aboutir à l'amendement du pécheur, qui par le fait de cette maudition fraternelle renoncera par sa propre volonté à son péché. Mais elle n'est plus obligatoire s'il est manifeste qu'elle n'aboutira à rien, que le pécheur, endurci dans sa volonté pécheresse, ne voudra rien entendre de l'avertissement qui lui sera fait, n'en tiendra aucun compte ou s'en moquera. La correction fraternelle n'obligerait pas non plus si la prudence indiquait clairement que l'affaire, à un moment donné, serait inopportune et qu'il convient de l'ajourner. On le voit, la monition n'est obligatoire que si elle est bonne à faire. Autrement, il faut s'en abstenir. Et elle n'est bonne au plein sens du mot, c'est-à-dire vertueuse, que revêtue de toutes les circonstances qui la rendent efficace et opportune. Donc c'est la prudence qui déterminera si la correction fraternelle, en l'occurrence, est à faire ou pas. Et pour le cas présent de David, qui avait tellement péché, c'était encore une fois très délicat de lui reprocher son péché, et personne ne pouvait le faire. Personne, parce que le roi est au-dessus de tous ses sujets. Mais Nathan, qui venait voir le roi, et le roi l'appréciait, va lui faire, sous forme de parabole, qu'on connaît avec la brebis, ce propriétaire avait 100 brebis, et l'autre n'avait qu'une brebis, et le grand propriétaire a volé la brebis de ce petit propriétaire. Et le roi est courroucé et donne une sentence. Cet homme doit mourir. Et Nathan, puisque David a reconnu qu'il y avait une injustice dans ce vol de la brebis unique par rapport à celui qui en avait un grand nombre, profite de cette vérité de David pour lui dire « Cet homme, le voleur, c'est toi. C'est toi. » Et ainsi, il dévoile le péché de David, d'où la correction fraternelle, avec ce commentaire magnifique que je vais vous lire de Saint Grégoire le Grand. Cette correction donc demande beaucoup de prudence et de tact, surtout quand il s'agit des grands de ce monde. Parfois, dit Saint Grégoire, lorsqu'on reprend les puissants de ce monde, il faut avoir soin de procéder à l'aide de quelque allégorie, comme s'il s'agissait d'un autre cas que de leur propre. Et lorsqu'ils ont eux-mêmes porté une juste sentence, comme ils eussent fait pour un étranger, alors il faut, en termes appropriés, les attaquer pour leur propre crime, de telle sorte que leur âme enflée de puissance temporelle et qui spontanément vient de se libérer du joug de l'orgueil, ne puisse d'aucune façon se dresser contre celui qui la reprend, ni davantage essayer de présenter sa défense, liée qu'elle est par un jugement sorti de sa propre bouche. David était coincé, parce qu'il avait donné la sentence. Cet homme doit mourir, cet homme c'est toi. Et Nathan, de la part du bon Dieu, va lui dérouler tous ses péchés. Quel tact, et quelle force également, dans celui qui l'a repris, Nathan en l'occurrence. Saint Grégoire continue. C'est en de telles conditions que le prophète Nathan était venu reprendre le roi David et lui demander un jugement dans la cause d'un pauvre contre un riche, afin que, tout d'abord, le prince rendît la sentence et entendit ensuite prononcer au sujet de son propre crime, de telle façon qu'il lui fut totalement impossible de contester la décision qu'il avait, en personne, portée contre lui-même. Donc, ce saint homme, se trouvant en présence d'un pécheur et d'un roi, s'appliqua tout d'abord, avec grand à-propos, à enfermer l'orgueilleux délinquant dans les liens de sa propre confession, puis à l'atteindre par une forte invective. Il lui laissa ignorer un moment quel coupable il cherchait, et il le frappa aussitôt qu'il l'eut convaincu de sa faute. Peut-être n'aurait-il pas aussi vivement atteint le roi s'il avait essayé dès les premières paroles de châtier son forfait. Procédant au contraire au moyen d'une allégorie, il rendit plus aigu le reproche qu'il avait d'abord dissimulé. Il était venu médecin vers un malade. Il se rendait bien compte de la nécessité d'une opération, mais il doutait de la patience de celui qui était souffrant. Il cacha donc sous son manteau le fer du chirurgien, puis le tirant, il l'enfonça brusquement dans la plaie, de telle façon qu'avant de l'avoir aperçu, le malade sentit la lame faire son travail de résection. Cela afin de prévenir le refus probable du patient si ce dernier, au préalable, avait eu la vue de l'instrument, comme c'est bien dit. Et c'était très délicat, on l'a vu. Reprocher à un roi tous ses crimes, c'était vraiment, pour Nathan, une question peut-être de vie et de mort. Parce que le roi était dans son péché. Était dans son péché, dans ses péchés. Quelle leçon il y avait à faire pour nous aussi. Il peut arriver parfois que nous ayons à reprendre notre prochain. Comment le faire? Avec beaucoup de délicatesse. Parce que si nous sommes en position d'autorité, des parents par rapport à leurs enfants par exemple, un patron vis-à-vis de ses employés, etc. Donc un poste d'autorité, il faut reprendre. Mais comment faire? Le pécheur est dans son péché, c'est-à-dire il est fermé à la grâce, fermé à Dieu, plein d'orgueil, plein de suffisance. Il n'est pas prêt à entendre la vérité. Comment faire? C'est le don du Saint-Esprit qu'il faut demander à ce moment-là, le don de conseil. On a vu avec saint Thomas que la correction fraternelle, pour la correction fraternelle, je veux dire, il faut la prudence, mais pas seulement la prudence humaine, ou surnaturel, il faut le don du Saint-Esprit, le don de conseil. Le don de conseil. Ainsi, il importe souverainement de demander au Saint-Esprit ce don puissant de conseil pour agir saintement. Si j'ai à reprendre mon prochain, c'est avec charité. Ce n'est pas quelque chose de biaisé pour lui faire encore plus de mal. Nathan, sous couvert d'une parabole, d'une allégorie, comme dit le saint pontife saint Grégoire le Grand, a utilisé une belle image, celle du pasteur. David connaissait ce monde, c'était un pasteur. Il connaissait les brebis. Il avait passé sa jeunesse dans ce monde. Il était berger. Donc il connaissait bien. Donc il utilise une connaissance pour élever davantage l'âme à la vérité. Alors bien, chers frères, il faut bien demander au bon Dieu cette prudence, ce don de conseil, cette sagesse pour agir en tout temps avec délicatesse, avec force, bien sûr. Et la force est délicate, elle n'est pas brutale, elle n'est pas brusque. Elle veut élever l'âme vers le bon Dieu. Et ça, c'est le propre de l'éducateur, de lever les âmes vers le bon Dieu et ne pas les abaisser dans leur péché, au contraire, de les faire quitter le péché pour adhérer davantage à Dieu. Donc Nathan a bien agi, voyez-vous. Et David a été attentif à l'enseignement de Nathan. Et bien sûr, par la suite, David a été un très grand roi, un saint roi. David n'a plus péché par la suite. Il a tellement regretté son péché. Dimanche dernier, nous étudions le grand psaume, le Miserere, que David a chanté en pleurant après ses six graves péchés. Psaume de regret, de grande contrition, un cœur brisé. Si Nathan n'avait pas aussi bien parlé, David n'aurait pas eu cette suite dans sa vie si sainte, si chaste, si pure, si pleine de charité, si forte, par le service du bon Dieu. Vous voyez, quand il s'agit de reprendre le prochain, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui reprend aussi les pécheurs, quelle délicatesse, quel tact, quel souci de lever les âmes, d'élever les âmes, de pécheresses qu'elles sont, et les tire avec bienveillance, avec force, vers le plus haut, notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Thank you.